France 24 et RFI présentent
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. La semaine a été marquée par la démission du gouvernement Barnier qui accentue l'affaiblissement de la France en Europe, alors que les défis économiques, commerciaux et géopolitiques ne manquent pas. Nous en parlons tout de suite avec Aurore Laluc. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes une économiste qui a été élue en 2019 au Parlement européen, qui siège avec les socialistes européens, bien sûr, et vous présidez désormais la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, une Française à ce poste prestigieux. Pourtant, la France n'est pas au mieux en ce moment, avec une motion de censure contre le gouvernement Barnier et des incertitudes qui en découlent. Les Français donnent l'impression de ne plus avoir de pilote dans l'avion. Est-ce qu'ils se font tout petits à Bruxelles ?
Je crois qu'on est tous très inquiets à Bruxelles, en fait. C'est surtout ça. Il y a une grande inquiétude parce qu'on connaît le rôle de la France dans la construction européenne, son importance d'un point de vue économique. Et surtout, je pense que ce qui perturbe aussi beaucoup les Européens, c'est la question de la crédibilité de la parole. Je m'explique. Pendant 2 années consécutives, Bruno Le Maire a présenté un budget et une trajectoire budgétaire qui n'était pas sérieuse, en fait. Et ça, c'est nouveau côté européen. C'est-à-dire que la France n'ait pas un budget à l'équilibre. C'est très rare qu'elle ait un budget à l'équilibre, à vrai dire, depuis 1961, si ma mémoire est bonne. Néanmoins, on est habitué à avoir une parole crédible et sérieuse. Là, c'est autre chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la France est arrivée avec une perspective budgétaire. Et finalement, on a vu qu'elle était incapable de suivre cette trajectoire. L'Union européenne, mais même d'autres institutions, on pense au Fonds monétaire international, etc., ont toujours dit, mais votre politique fiscale, en fait, vos coupes fiscales ne sont pas financées. Bruno Le Maire disait, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à voir. Donc c'est ça, en fait, qui est aussi très, très perturbant, si vous voulez.
Que votre camp, le Parti socialiste, ait voté avec l'extrême droite pour faire chuter un gouvernement Barnier, un Barnier qui était un nom quand même à Bruxelles, ça en a choqué plus d'un. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a une logique dans cette motion de censure entre l'alliance de deux entités qui ne sont absolument pas compatibles?
Ce n'est pas une alliance. Et par ailleurs, vous comprenez bien que c'est très compliqué quand on est un social-démocrate de soutenir un gouvernement qui ne va chercher que du soutien du côté de l'extrême droite. Moi, j'ai un grand respect à la base pour Michel Barnier parce que je sais ce qu'il a fait au niveau européen. Et je crois que tout le monde au niveau européen a un grand respect pour Michel Barnier parce que ça a été le négociateur du Brexit. Quelqu'un qui est venu nous voir quand il négociait le soir, nous faire des comptes rendus, etc. On a tous un grand respect au niveau européen pour ce monsieur. Mais là, que voulez-vous? À partir du moment où vous avez un gouvernement qui cherche le soutien de l'extrême droite et que vous avez fait bloc contre l'extrême droite, continuez à le soutenir quand vous cherchez à dialoguer avec lui, c'est quand même compliqué. Et le responsable de cette situation, il faut quand même le redire, c'est Emmanuel Macron. Un, responsable parce qu'il a fait une dissolution de l'Assemblée nationale un soir d'élection européenne, quel rapport. Deuxièmement, parce qu'il a décidé de nommer Michel Barnier et qu'il a du mal à accepter aussi le fait qu'on puisse revenir sur son bilan. Mais en fait, il faut revenir sur son bilan. Alors, et c'est d'ailleurs, quand on regarde l'analyse qui est faite du budget français au niveau européen, c'est ce qu'il lui demandait.
Alors, vous appelez dans une tribune avec Raphaël Glucksmann toutes les forces opposées au Rassemblement national à travailler ensemble pour un accord de non-censure et à la production d'une plateforme de gouvernement provisoire. Est-ce que ça vous paraît seulement faisable en l'état de l'Assemblée nationale et de la France ?
Il va falloir que tout le monde soit à la hauteur des Français. C'est-à-dire que je pense que les Français savent que personne n'a la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et quand vous parlez dans la rue, etc., tout le monde dit « mais en fait, il n'y a pas de majorité, soyez à la hauteur ». Les Français ont fait un effort et se sont mobilisés pour faire barrage au Rassemblement national. C'est ça l'histoire de ce vote. Et nous, quoi, la classe politique, on ne serait pas à leur hauteur parce qu'on se dirait « ah ben non, je pense à ma petite boutique et non, c'est moi qui dois être au pouvoir et pas toi, etc. » Ce n'est pas la hauteur, ça. Par ailleurs, Il y a une réalité arithmétique qui fait que la gauche n'est pas majoritaire. Je le regrette, je préférerais, mais c'est ainsi. Et nous, on doit être responsable là où Emmanuel Macron ne l'est pas. Et notre responsabilité, c'est dur, je conviens, mais c'est donner de la stabilité au pays. Ça se fait, et je pense que vous êtes la mieux placée pour le savoir, parfaitement partout dans le reste des pays européens. Et nous, on est très archaïque de ce point de vue-là. On est les seuls à ne pas être en capacité de faire des coalitions. Ça se fait partout. Là, aujourd'hui, on doit être en capacité de le faire sur une base programmatique. Au moins, on se doit. C'est une obligation morale d'essayer. On ne peut pas refuser de se mettre autour de la table. Est-ce qu'après, on arrive à avoir un accord? Je ne sais pas à ce stade. Sincèrement, je ne sais pas. Mais depuis le mois de juillet, avec Raphaël Glucksmann, on me dit « mais mettons-nous autour de la table et voyons si on arrive à accoucher de quelque chose ».
La France des mouvements sociaux, c'est parfois l'image que nous renvoyons à nos voisins européens. Et c'est bien sûr particulièrement le cas en ce moment, en pleine crise politique. Jeudi 6 décembre a été marqué par une grève des enseignants. Et ce, malgré la chute du gouvernement Barnier, les Français sont en ce moment perdants à coup sûr.
On est un pays où en fait, il y a très, très peu de dialogue social. Et sous Emmanuel Macron, ça a été le pire des pires à ce niveau-là. Donc, il faut du dialogue social dans ce pays. On a des partenaires sociaux qui savent en fait trouver des solutions quand ils se mettent autour de la table. Donc, appuyons-nous sur les partenaires sociaux. Deuxièmement, la situation, que ce soit dans les hôpitaux d'ailleurs ou à l'éducation nationale, est terrible. Dans les pays de l'OCDE, on fait partie des pays qui payent le moins dans le domaine de l'éducation nationale. C'est une question sociale, mais c'est même pas qu'une question sociale, je vais vous dire. C'est une question d'investissement dans l'avenir du pays.
La France est sous le coup d'une procédure pour déficit excessif consolidé à 6,1% du budget de fin de gestion, comme on dit, loin des 3% demandés. On n'est plus du tout sur une pente d'ailleurs décroissante en matière de déficit et de budget.
Oui, tout à fait. Mais encore une fois, c'est lié à la politique qui a été menée par Emmanuel Macron, qui a fait des choix qui étaient des choix. En gros, son pari était le suivant. On va couper dans la fiscalité. Et ça va permettre quelque part de relancer la croissance et cette croissance va permettre de faire des rentrées fiscales. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Et faire des erreurs en politique économique, ça arrive. Mais au bout d'un moment, il faut l'admettre et il faut rectifier le tir. Aujourd'hui...
On n'a pas pu rectifier le tir, le gouvernement Barnier est tombé. Mais le délai de réduction des déficits qu'on lui avait accordé sur son profil européen... On va peut-être pas, Bruxelles ne va peut-être pas faire de cadeaux aux autres, non ?
On va voir ça. Le vrai test côté bruxellois, ce sera au printemps, à vrai dire. La France a proposé sa trajectoire. Mais soyons aussi très clairs, ce qui a été proposé par Michel Barnier, c'était des coupes entre 40 et 60 milliards. Mais ce n'est pas ça que demande Bruxelles. Bruxelles demande une trajectoire crédible, sérieuse, qui est autour de 18 milliards par an. Donc on n'a pas besoin en plus de surjouer. Alors après avoir minimisé la situation, on est en train quelque part de dire qu'elle est dramatique. Soyons juste sérieux, on a besoin de 18 milliards par an. Ça se trouve, 18 milliards par an, ça se trouve dans les niches fiscales, ça se trouve dans une fiscalité plus juste, ce genre de choses. Et ensuite, il y a des investissements qu'il faut faire. Investir dans l'éducation nationale, c'est de l'investissement. C'est un coût à court terme. À long terme, ce sont des bénéfices. Et par ailleurs, il faut vraiment retrouver le moyen de relancer l'activité économique dans ce pays. C'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça aussi qu'il nous faut vite trouver une solution. Parce qu'il y a plein de plans sociaux qui se préparent aujourd'hui dans le pays.
Mais il y a aussi la question, finalement, de l'image de la France. Oui. L'écart entre les taux d'intérêt d'emprunt de la France et de l'Allemagne a fortement augmenté. Oui. C'est ce qu'on appelle le spread, qui s'envole à des niveaux, on est au niveau de la Grèce en ce moment. Certaines agences de notation s'apprêtent à nous dégrader. La France est beaucoup moins solvable sur les marchés.
Alors, elle emprunte toujours très bien. Ça, il n'y a pas de panique à avoir de ce côté-là. Ensuite, sur la question des agences de notation, ce que je dis toujours, c'est que ce n'est pas aux agences de notation de définir quelle doit être la politique économique et la politique publique de la France. Mais néanmoins, il faut aussi regarder la situation telle qu'elle est. Moi, je n'ai jamais agité la peur de la sanction des marchés financiers, etc. On est toujours en train de le faire dans ce pays, pour faire passer un certain nombre de politiques. Je ne l'ai jamais fait. Là, je trouve qu'il faut quand même faire attention. Voilà, c'est-à-dire que le pire n'est jamais certain, mais il est aussi maintenant possible, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à avoir des gens en responsabilité qui proposent une trajectoire crédible. Néanmoins, la signature de la France et sa capacité à emprunter restent toujours fortes.
Deuxième économie de la zone euro, Aurore Laluc, et donc peut-être désormais l'homme malade de l'Europe, dans ce qu'on disait de l'Italie, qui risque d'entraîner la zone euro dans sa chute.
Si vous voulez, quand vous avez une économie allemande qui ne va pas bien, parce que eux, c'est l'inverse. Ils n'ont pas assez investi dans les infrastructures publiques, etc. Ils sont en train d'en payer le prix. Ils ont trop de dépendance avec la Chine, trop de dépendance avec la Russie. Et que vous avez la France qui ne va pas bien, oui, je ne peux pas dire qu'au niveau européen, ne soyons pas inquiets. Je le vois très bien dans ma commission, que j'ai l'honneur de présider, où les questions... ne sont pas des questions de politique politicienne, c'est pas des petites phrases, etc., pour chercher un peu à faire des petites captures des vidéos sur Twitter pour être dans la posture. Les questions sont graves aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une vraie inquiétude.
Il y a une chaise vide. Déjà, vous l'avez dit, à Berlin, puisque Olaf Scholz, effectivement, a remis en jeu par le vote le 23 février son mandat. Et va d'ailleurs, il y aura sans doute changement de majorité, puisque les chrétiens-démocrates sont nettement en tête des sondages. Une Europe qui sera quasiment entièrement à droite. Ça nous dit quoi d'ailleurs aussi de la faiblesse des social-démocraties ?
Oui, bien sûr, ça dit quelque chose. Ça dit le fait que la social-démocratie doit se renouveler, doit être forte, doit avoir un discours clair et doit pas être toujours dans cette espèce, on est obligé, d'opposition face à l'extrême droite. Elle doit avoir un récit, elle doit être courageuse, elle doit protéger... Les Européens sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la réindustrialisation, il faut qu'on soit présent, etc. On est très présent au niveau européen, c'est nous qui avons permis les plus grandes avancées, disons-le clairement. Le SMIC européen, c'est grâce à nous, la protection des travailleurs, des plateformes, c'est grâce à nous, le Green Deal, c'est grâce à nous, etc., etc. Mais néanmoins, oui, ça ne suffit pas. Et il y a une vraie lame de fond idéologique d'extrême droite aujourd'hui, comme il y a eu des vagues idéologiques de gauche, puis néolibérales. Là, on voit qu'il y a une vraie vague idéologique d'extrême droite, et on le voit même en Espagne. En Espagne, on a eu un gouvernement social et on a un gouvernement social-démocrate qui a augmenté les salaires, qui a fait de la fiscalité juste, qui a vraiment fait...
Et l'extrême droite monte quand même.
Et l'extrême droite monte quand même. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est quelque chose de très profond qui vient de probablement il y a plusieurs décennies de cela et qui est malheureusement en train de se matérialiser aujourd'hui. Donc il faut que nous, on fasse face à ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, là, à vrai dire, c'est de vraiment être en capacité... faire en sorte que nous ayons une Europe forte. Alors, une Europe forte et une Europe de l'industrie.
Mais quelle Europe forte ? Parce que Ursula von der Leyen a monté vidéo pour signer l'accord du Mercosur. Oui. C'est évidemment à la Commission de négocier, ça c'est dans les traités, et on ne connaît pas tous les détails de cet accord. Mais expliquez-nous pourquoi, de votre point de vue, alors social-démocrate justement, c'est plutôt un mauvais accord, même s'il fait envie à un maximum de pays.
C'est... Comment dire ? Moi, déjà, j'ai rien contre les accords de commerce à la base. Le commerce international, il n'y a pas de sujet, ce n'est pas le problème. Deuxièmement, je ne pense pas que l'urgence aujourd'hui, ce soit l'approfondissement de la mondialisation. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est de réindustrialiser le pays.
Même si Donald Trump va mettre des barrières tarifaires très très hautes et qu'on aura du mal à vendre aux États-Unis.
Mais justement, la question, c'est la réindustrialisation. C'est de faire en sorte que... comment dire ? Du côté américain, ils ont fait, comme vous savez, l'Inflation Reduction Act, qui est vraiment un moyen de réindustrialiser les
États-Unis. Des subventions aux industries vertes.
Des industries vertes, etc. Donc, ils sont en train de faire leur filière de production. De l'autre côté, vous avez la Chine qui a théorisé la nécessité de mettre l'économie européenne sous sa coupe d'ici 2050. Donc nous, on fait quoi là-dedans ? On est le continent le plus ouvert.
Et exporter en Amérique latine, ça ne vous paraît pas un enjeu important ?
L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être en capacité de produire des médicaments sur notre territoire, de pouvoir produire de l'énergie. Parce que si on perd en compétitivité, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à produire assez d'énergie et que le coût de l'énergie est trop élevé sur notre continent. D'être en capacité d'avoir un secteur automobile vert fort, d'avoir une chimie forte, c'est ça qui fera du bien aussi parce qu'on sait que l'emploi dans l'industrie, pas n'importe laquelle, hein, c'est une industrie qui doit correspondre au Green Deal, mais l'emploi dans l'industrie, c'est ce qui protège le mieux de la pauvreté.
Accord UE-Mercosur tout de même, oui. Pour le bloquer. Vous demandez à Emmanuel Macron d'essayer de le bloquer. Il faut une minorité de blocage de 3 pays supplémentaires. Alors peut-être la Pologne et l'Italie sont en train de basculer dans notre compte. 35% de la population, vous y croyez? Il est en mesure d'imposer cette minorité de blocage?
Mais c'est ce que vous avez dit avec pertinence au début de l'émission. C'est-à-dire quelle est aujourd'hui la force de la parole d'Emmanuel Macron au niveau européen? En fait, la parole de la France est très dégradée. Donc il faut, à mon avis, qu'il y ait cette minorité de blocage. Parce qu'on le voit bien, en plus, cet accord, il va engendrer des problématiques d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, etc. Sur les agriculteurs aussi. Donc c'est important. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'emmener avec lui d'autres pays? Aujourd'hui, c'est la vraie question.
Prenons la direction du front est de l'Europe. En Géorgie, il y a des manifestations monstres depuis que le gouvernement du parti Rêve géorgien a dit qu'il avait remporté les dernières élections et suspendu le processus d'adhésion à l'Union européenne jusqu'en 2028. Des élections contestées par des observateurs et les opposants arrêtés. Est-ce que les Européens sont suffisamment impliqués dans ce qui se passe dans leur voisinage?
On ne l'a jamais été. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé en Ukraine le prouve, c'est qu'on n'était pas assez impliqués. Durant mon mandat précédent, j'ai eu de cesse d'alerter sur notre dépendance au gaz qui venait de Russie. Que cela nous posait des problématiques en termes environnementaux, mais en termes géopolitiques. Et en fait, on a du mal à gérer au niveau européen, à anticiper et à prendre... De ce qui s'est passé avant. Et sur la question de la Géorgie, on n'est pas assez présent. Et l'avenir de la Géorgie, pour moi, est en Europe. Et quand je vois toutes ces mobilisations avec le drapeau européen, ça prend aux tripes. On n'est pas assez présent et on doit être plus présent que ça, à mon avis.
Merci Aurore Laluc d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Et bien entendu, vous restez sur nos antennes où l'actualité continue.